après 4 jours de forte baisse des marchés et surtout 4 heures avant d'annoncer une suspension temporaire des droits de douane. En parallèle, le Trésor américain est intervenu. Il a émis 40 milliards de dollars de bons du Trésor pour soutenir un marché obligataire déprimé. Ça a permis à Wall Street, à ce moment-là, de repartir à la hausse. De quoi entretenir la polémique, car la maison mère de Truth Social est cotée à Wall Street et son principal actionnaire, c'est Donald Trump. Les démocrates y voient donc quelque chose de suspect. Peu de chance cependant de voir une enquête parlementaire s'ouvrir, car les républicains ont la majorité dans les deux chambres. Mais des acteurs privés pourraient chercher à obtenir réparation en prouvant que Donald Trump s'est bien livré à un délit d'initié.
Merci Pierre Pilet. Après le revirement du président américain, l'Europe suspend ses représailles pour 3 mois. La Commission européenne veut négocier, mais elle menace de taxer les géants américains de la tech si ça ne marche pas. Betaram va faire l'objet d'une enquête plus approfondi, le rapport du rectorat met en lumière plusieurs dysfonctionnements dans l'établissement catholique du Béarn. Un espoir contre la maladie de Parkinson. 250 000 personnes sont touchées en France. Le gouvernement va investir 1,8 million d'euros dans la recherche. La société InBrain Pharma travaille avec des chercheurs lillois sur un nouveau traitement. Il s'agit d'injecter de la dopamine directement dans le cerveau pour corriger les symptômes de Parkinson, Lucie Dupressoir.
Aujourd'hui, les malades de Parkinson doivent prendre un cachet, un précurseur de la dopamine qui active la molécule une fois dans le cerveau pour ralentir la dégradation des neurones. Mais ce traitement perd en efficacité après 5 ans et entraîne des mouvements anormaux à terme. Avec ses recherches, InBrain Pharma propose donc en complément d'injecter directement la dopamine dans un petit réservoir installé sous la peau, au niveau de l'abdomen, relié au cerveau grâce à un cathéter. Cela implique une chirurgie préalable, mais les essais cliniques sur 9 patients ont montré une amélioration de la motricité. Avec un contrôle de ses gestes pendant près de 5 heures de plus par jour, revendique InBrain Pharma, et une réduction de la dose médicamenteuse à ingérer en parallèle. La dernière phase d'essai est prévue l'année prochaine pour une mise sur le marché espérée en 2031.
Et puis l'Union européenne a trouvé un accord pour interdire les produits dangereux dans les jouets, interdiction des PFAS et réglementation très stricte sur les perturbateurs endocriniens. Le texte entrera en vigueur quand les États l'auront définitivement adopté.
Merci Virginie, bravo d'inventer des mots, des menaces de taxes. En
voilà,
fait.
C'est bien ça. C'est mon mot du jour.
Allez, à suivre le choix culture de Guy Boyer de Connaissance des Arts. Il est 8h06. Bonjour Guy Boyer, aujourd'hui vous nous parlez de Georges Mathieu, une redécouverte exposition à la Monnaie de Paris jusqu'au 7 septembre.
Et oui, Georges Mathieu, cet artiste des années 70, connu pour ses affiches pour Air France, pour la pièce de 10 francs et le sigle même d'Antenne 2 avec sa mire et ses traits éclatés. Alors la Monnaie de Paris, et c'est pour ça que ça se passe là puisqu'il avait fait des pièces de monnaie, réactualise le travail de l'artiste en sollicitant le regard du critique d'art Éric de Chassé qui resitue Georges Mathieu entre Brienne ou Pollock pour les inspirations et De Gotex pour la suite. Alors l'exposition est vraiment passionnante car on retrouve ces grands panoramiques abstraits tels que la bataille de Bouvines de 1954 ou l'hommage au maréchal de Turenne de 1952. Et alors la grande découverte pour moi, ça a été cette suite en blanc qui sont des tableaux sur fond blanc, avec de longs filets de peinture blanche, et tout ça mis en parallèle avec des services de porcelaine de Sèvres que Georges Mathieu avait fait à l'époque.
Et puis il y a une deuxième partie de l'exposition qui est plus moderne, plus contemporaine.
Alors oui, il y a une deuxième partie de l'exposition qui est au rez-de-chaussée, parce qu'on a fait appel à des jeunes artistes, enfin des artistes, des graffitistes, enfin des gens qui font des grands décors sur les murs, comme John Wan ou Lek et Sowat, et ils ont peint les murs du rez-de-chaussée en intégrant des œuvres sur papier de Mathieu, et en lui donnant une touche complètement contemporaine.
Merci Guy Boyer de Connaissance des Arts, on vous retrouve la semaine prochaine. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar, et juste après, je reçois Louise Vassy, directeur de l'Institut d'études politiques de Paris depuis le 1er octobre 2024, ancien ambassadeur de France aux Pays-Bas, évidemment. On va parler de Sciences Po, de la formation internationale et de ce que ce nouveau directeur veut faire de l'institution.
Vous aussi, vous cherchez ? Où et comment placer votre argent ? Pour vos placements en bourse ou en assurance vie, rien de plus simple avec Bourse Directe. Suivez nos formations, investissez, épargnez, le tout à moindre frais. Et ça, c'est important. Avec Bourse Directe, vivez vos placements autrement. Risque de perte en capital. Courtier d'assurance numéro Orias 08 044 344. Communication promotionnelle.
Chez Action, vous trouverez des petits prix pour un grand printemps. Des pots de fleurs pour plus de couleurs dans votre jardin, des jeux de plein air pour s'amuser pendant des heures, ou de la belle vaisselle pour vos repas en plein air. Tout ce dont vous avez besoin pour votre jardin ou votre balcon se trouve dans un magasin ou sur l'appli Action. Action, petit prix, grand sourire.
Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donation, assurance vie, comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com.
Vous en avez assez de dire non à votre enfant ? J'ai la solution. Dites-lui oui. Oui à tout. Oui, mon amour, tu peux choisir l'atelier peinture, dessin ou éveil musical. Oui, vas-y, fais de la mosaïque, de l'aquarelle ou même du modelage. Oui. Et oui, pendant les vacances, c'est l'opération Vive les couleurs chez Cultura, avec 20 000 ateliers gratuits pour éveiller vos enfants à l'art et à la culture. Inscrivez-vous dès maintenant sur cultura.com. Offre réservée aux membres Cultura Addict, voire conditions en magasin et sur cultura.com. Cultura, la culture avec un grand A.
Carrefour. Avec votre club Carrefour, cagnottez 34% d'économies sur tout la Berry. Oui, 34% d'économies sur les saumons fumés, le confit de canard, les jambons ibériques. Et c'est jusqu'au 20 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Selon disponibilité en magasin, limité à 6 produits par foyer, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Waouh ! Pour la troisième fois consécutive, vous avez choisi Action comme enseigne préférée des Français. Merci pour votre confiance et à bientôt dans nos magasins. Action, petit prix, grand sourire.
Vous trouvez que le temps passe vite ? Nous aussi. Alors chez Mazda, nous vous offrons jusqu'à 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance sur nos berlines SUV compact 9 Mazda 3 et CX-30. Et pour toujours plus de sérénité, nous garantissons tous nos modèles 6 ans. Prenez juste le temps de découvrir notre gamme chez votre concessionnaire Mazda le plus proche. Le moment est venu de rouler l'esprit tranquille. Garantie 6 ans limitée à 150 000 km. Offre valable en location longue durée à particulier jusqu'au 30 juin. Pensez à covoiturer.
Dans un instant, Guillaume Tabar, l'éditorial, et juste après, je reçois le directeur de Sciences Po, Louise Vassy.
Votre nouveau poltron sofa est plus proche que vous ne le pensez.
Bien sûr, Bruno, c'est la collection Je Mérite. Tant de canapés à 799 € seulement.
Mais ça se termine demain.
Vous avez plus de 300 magasins pour l'essayer. Avec en plus 30% sur les modèles de la collection, comme en exposition.
Poltron sofa, 30 années de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
8h11, l'heure de retrouver Guillaume Tabar, que je salue.
Bonjour David.
Guillaume, Bruno Retailleau a présenté le bilan de ses 6 premiers mois au ministère de l'Intérieur. Pourquoi le fait-il maintenant ?
Tout simplement parce qu'après avoir réalisé une percée fulgurante et inédite après sa nomination, Bruno Retailleau sait qu'il ne peut pas se contenter de surfer sur une image acquise en quelques semaines. Alors, après avoir gagné la bataille de la notoriété, le ministre de l'Intérieur s'est construit une popularité record reposant sur 3 piliers. D'abord, la sincérité, une qualité qui lui est reconnue, y compris par ses adversaires idéologiques. Ensuite, la vérité du diagnostic qu'il a posé sur les questions de sécurité et d'immigration. Et enfin, la volonté, grâce à ce discours qui entend vaincre la malédiction de l'immobilisme ou du fatalisme. Mais attention, rien de pire que le volontarisme sans résultat. Rien de pire de ne pas pouvoir répondre à un espoir qui s'est créé. Donc, au moment où des questions commencent à se poser, notamment sur ce qu'il a obtenu ou ce qu'il peut obtenir de l'Algérie, eh bien Bruno Retailleau a besoin de montrer que son action commence à porter ses fruits.
L'absence de résultat n'est-ce pas justement l'angle d'attaque utilisé contre lui par Laurent Wauquiez, son concurrent ?
Eh oui, et donc cette mise en avant d'un premier bilan vise avant tout à rassurer l'opinion, mais elle vise aussi à répondre au procès en inefficacité ou en incapacité que lui fait Laurent Wauquiez pour convaincre les adhérents LR de le préférer au ministre de l'Intérieur. Et quand on y pense, c'est quand même assez fou que ce procès lui soit fait à l'intérieur de son propre parti, alors qu'on pourrait penser qu'ils auraient tous tout intérêt à jouer groupé. Bon, il ne faut pas oublier que c'est en acceptant de rentrer au gouvernement que les Républicains ont retrouvé une part de crédibilité. Après, c'est sûr que ce gouvernement est divers. Il est dirigé par un centriste, François Bayrou, et il comprend des personnalités marquées plus à gauche, notamment sur les questions régaliennes, et que Retailleau ne peut pas aller aussi loin qu'il le voudrait. Mais vous savez, c'est ça l'éternel dilemme quand on exerce le pouvoir. Faut-il agir et avancer en acceptant des compromis? Ou faut-il rester droit dans ses bottes, quitte à ne peser sur rien? Où est la frontière entre compromis accepté et couleuvre avalée? Ce sont des questions que n'a pas fini de se poser le ministre de l'Intérieur. Jusqu'où peut-il rester? À partir de quoi ou à partir de quand doit-il partir?
Vous voulez dire que cette question ne se pose pas uniquement pour Retailleau à cause du match pour la présidence des Républicains?
Non, je dirais même que cette échéance est marginale, ou en tout cas secondaire, par rapport au véritable horizon de la droite en général et de Bruno Retailleau en particulier, à savoir la présidentielle de 2017. Au sein du socle commun, on voit que certains sont prêts à travailler avec LR, mais à condition qu'il reste quand même des supplétifs. Ça, c'est plutôt la ligne d'Édouard Philippe. Puis il y en a d'autres qui veulent carrément tenir LR à distance, à ses Renaissance et Gabriel Attal. Mais maintenant qu'il est entré dans la cour des premiers rôles, et maintenant qu'il a rendu une forme de fierté aux électeurs de droite, eh bien le défi de Bruno Retailleau, c'est de faire de la droite un pôle d'attraction pour que l'après-macronisme, il puisse devenir une force dominante. On en est loin aujourd'hui, et il a 2 ans pour y parvenir. 2 ans, c'est à la fois court et long.
L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr. Merci Guillaume, bon week-end. Et maintenant l'invité de la matinale. Il dirige depuis 6 mois l'Institut d'études politiques de Paris, après une carrière de diplomate. Il a dû remettre de l'ordre dans un établissement secoué l'an dernier par l'activisme pro-palestinien d'une poignée d'étudiants, rassurer les anciens élèves et les donateurs, et continuer, c'est l'essentiel, à former des étudiants à un monde imprévisible à l'heure de Donald Trump et des intelligences artificielles. Bonjour Louise Vassy.
Bonjour.
Vous avez pris la direction de Sciences Po le 1er octobre dernier. Merci d'être avec nous pour parler aux auditeurs de Radio Classique, parmi lesquels quelques anciens diplômés de Sciences Po et peut-être aussi des étudiants. Ma première question est simple. Comment avez-vous fait retomber la fièvre qui s'était emparée l'an dernier de quelques étudiants émus de la situation des Gazaouis? Vous êtes le grand pacificateur de l'IEP?
Écoutez, c'est vrai que l'année 2024 a été difficile pour Sciences Po, il faut le reconnaître. Et au fond, ce que j'ai essayé de faire, c'est de n'être ni dans l'alarmisme, ni dans le déni. Et d'essayer de comprendre comment nous allions avancer ensemble. Le projet que j'ai défendu, il consistait à dire que l'apaisement viendrait par la reconstitution d'une trajectoire intellectuelle et académique et d'une vision de long terme pour Sciences Po. C'est ce que nous essayons de mettre en œuvre, ce que j'ai proposé pendant ma candidature, autour de ma candidature. Et c'est vrai que je constate que une immense majorité des étudiants, des enseignants, des salariés veulent pouvoir avancer de manière apaisée à Sciences Po, et je m'en réjouis.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer, ça concerne pas uniquement Sciences Po, et ça intéresse beaucoup nos auditeurs, c'est comment des minorités agissantes, mais vraiment des minorités de minorités, quoi, souvent des trotskistes, l'extrême gauche, peuvent bloquer des établissements d'enseignement supérieur, faire annuler des examens, c'est arrivé cet hiver, pas à Sciences Po, mais dans une fac parisienne. C'est quasiment une tradition.
Alors d'abord, je voudrais revenir sur un point en particulier, c'est que ma ligne pour Sciences Po, c'est qu'aucune activité de la vie normale de Sciences Po ne sera annulée ou reportée ou mise en cause. Je pense que nous avons une vocation, c'est d'étudier, d'animer le débat. Il y a quand même plus de 2000 événements par an à Sciences Po. Nous sommes évidemment un centre aussi de réflexion, de débat pour l'ensemble de la société. Les cours ont lieu, les examens ont lieu, les campus sont ouverts et fonctionnent. Et puis c'est vrai qu'une université, c'est un endroit très particulier. On en a discuté hier, puisque j'avais la chance de recevoir le président de la LSI, le provost de Stanford et d'autres homologues.
Qui eux aussi ont eu affaire à des troubles l'année dernière.
Et nous sommes au fond tous confrontés au même défi, qui est de savoir comment on fait fonctionner une université qui est d'abord et avant tout un espace de liberté académique, de liberté d'expression, et donc un endroit très bienveillant et pacifique fondamentalement, qui est peu habitué au rapport de force. Et donc quand vous avez des petits groupes d'individus qui souhaitent imposer un rapport de force, et ils le disent tout à fait publiquement dans leur communication ouverte, sur les réseaux sociaux notamment, évidemment une université est mal armée pour réagir à cela. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver les normes qui vont permettre de créer un consensus au sein de l'institution. Il y a 2 petits sujets, pardon d'être un peu long, mais il y a d'abord le sujet du positionnement institutionnel des universités, et toutes les grandes universités partenaires que j'ai reçues sont arrivées à une conclusion assez proche, mais chacun avec leurs mots, à celle à laquelle nous sommes arrivés en février dernier à Sciences Po avec notre nouvelle doctrine, une doctrine de réserve institutionnelle qui dit qu'au fond, nous ne sommes légitimes à nous positionner que sur les sujets qui nous concernent en tant qu'institution, d'abord et avant tout la liberté académique et la liberté d'expression. Pourquoi ? Parce que si l'institution se positionne sur un sujet, politique ou géopolitique, elle va porter atteinte à la liberté d'expression de ceux dont l'opinion ne serait pas l'opinion de l'institution. Mmh. Donc ça, c'est le premier point vraiment important. Et puis le deuxième, c'est de comprendre que les défis auxquels nous sommes soumis en termes de liberté académique, de liberté d'expression, ils sont très nombreux. On le voit partout dans le monde, on le voit même malheureusement aux États-Unis. Mais il y a aussi des défis qui viennent parfois de l'intérieur. Quand on voit ce qui s'est passé à Lyon 2, quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe à l'IEP de Strasbourg, on voit aussi que les menaces sur la liberté d'expression peuvent venir de tout petits groupes, vous avez raison, très actifs à l'intérieur.
Comment on les neutralise ? Parce qu'on ne peut pas appeler les CRS tout le temps, certains en rêveraient, et en même temps, un étudiant qui arrive pour étudier et il voit 30 clampins qui alignent des poubelles pour l'empêcher d'aller en cours, ça enrage tout l'écosystème d'une université.
Oui, c'est pour ça que je crois que la bonne ligne, c'est de dire qu'aucune activité normale de l'institution ne sera annulée, mise en cause, reportée. Je crois que c'est ça qui est réellement le cœur de notre vocation. Et je peux vous dire que beaucoup d'étudiants, enfin je dirais même l'écrasante majorité, sont évidemment très heureux de pouvoir continuer à mener les cours, mais aussi la vie associative. Elle est très riche sur les campus.
Est-ce que les donateurs, les anciens élèves de Sciences Po sont soulagés et manifestent des signes désormais d'indulgence ou d'encouragement à ce que vous faites ?
Je dois vous dire que je reçois énormément d'encouragement, évidemment. Tout le monde sait que directeur de Sciences Po, c'est une fonction un peu particulière. À raison d'ailleurs, puisqu'on forme à Sciences Po les dirigeants ou une grande partie des dirigeants du pays. Et donc il est, je le dis, absolument naturel que le pays s'intéresse à la manière dont une partie de ses dirigeants vont être formés. Donc on est très observé quand on est à la tête de Sciences Po ou quand on est Sciences Po. Moi je crois qu'en effet, avec les anciens élèves, les choses se passent vraiment très bien. Les donateurs reviennent assez massivement.
Ils étaient partis massivement.
Il y a eu des suspensions, comme vous le savez, en 2024, beaucoup de retours, la région Île-de-France, la famille Fitoussi dernièrement, mais on le voit aussi dans les petites donations. Et c'est une excellente chose, parce que nous avons besoin de ce soutien pour avancer.
Vous parlez de la région Île-de-France, c'est vrai que Valérie Pécresse, en son temps, à la fin des années 90, manifestait, bloquait des amphis.
Écoutez, je n'y étais pas à la fin des années 90, j'étais au lycée.
Vous bottez en touche. Alors, parlons du projet pédagogique de Sciences Po. Comment forme-t-on les futurs cadres de la nation, que ce soit dans le public? Ils y vont pour un tiers ou dans le privé, ils y vont pour deux tiers environ. Sciences Po forme beaucoup de cadres du privé. Comment on les forme aujourd'hui dans un monde bouleversé par l'intelligence artificielle et aussi, vous l'avez dit, par ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis dont les universités ont formé à un moment donné une sorte de modèle.
D'abord, je veux dire que par rapport à ce dernier point, nous sommes extrêmement attractifs. Nous enregistrons une hausse de 30% des candidatures d'étudiants étrangers pour nos masters et concernant les Français, puisqu'on vient d'avoir les chiffres, plus 5% pour le bachelor, donc la procédure post-bac de très bons lycéens qui souhaitent candidater à Sciences Po. Et ils ont raison. Ils ont raison pourquoi ? Parce que ce qu'ils vont apprendre à Sciences Po, c'est quelque chose d'extrêmement riche que nous allons d'ailleurs continuer d'adapter et d'améliorer. Ils vont apprendre à travailler de manière interdisciplinaire. Et interdisciplinaire, ça ne veut pas dire rester à la surface des choses. Ils vont aller très profondément dans les disciplines des sciences humaines et sociales et, grâce à la profondeur qu'ils auront acquise, être capables de naviguer entre les sujets, ce qu'offrent moins des formations dans lesquelles on va être exclusivement sur le registre de l'expertise.
Et donc, exemple, ça veut dire faire de l'économie en n'oubliant pas les relations internationales et la science politique et la profondeur historique, c'est ça l'interdisciplinarité ?
Exactement, exemple, donc dans la réforme du bachelor à laquelle nous sommes en train de travailler pour la rentrée 2026, tout le monde commencera par l'étude des grands textes de théorie politique classique de Platon à Hannah Arendt, sans doute, et peut-être d'autres, c'est pas à moi de les définir, mais on va socler des choses très fondamentales. Et puis en effet, les relations internationales, qui sont aujourd'hui optionnelles, vont devenir obligatoires. Les questions européennes vont être introduites dans les cursus. On est dans un monde où l'international vient percuter, au fond, l'ensemble de nos activités.
Vous avez réuni hier à Sciences Po des dirigeants de différentes grandes écoles et universités internationales, dont Stanford. Ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que ça vous impacte ? Est-ce que vous allez offrir l'asile académique à des chercheurs, à des enseignants américains, dont on a dit que certains voulaient quitter leur pays pour aller enseigner ou chercher en paix dans cette vieille Europe ?
D'abord, il faut comprendre qu'on est une institution très en lien avec l'international et les États-Unis en particulier. Donc 50% de nos étudiants sont étrangers. Je pense à cet égard que c'est important que Sciences Po marche sur ses deux jambes. La jambe de la formation des dirigeants français de demain, mais ces dirigeants, on ne va pas les former de manière non internationale, ça n'aurait aucun sens dans le monde que vous venez de décrire. Et puis en même temps, les étudiants étrangers viennent aussi parce qu'ils savent qu'ils vont venir dans une institution d'élite française. Et donc les deux vont évidemment ensemble. Donc oui, 50% d'étudiants étrangers. Il faut savoir qu'entre 15 et 20% des étudiants américains en France sont à Sciences Po. On est donc très liés à ce pays. Et puis 14% de nos enseignants-chercheurs ont fait leur thèse aux États-Unis. Donc oui, on a des candidatures de chercheurs américains. On en avait déjà. C'est vrai.
Il y en a un peu plus.
C'est vrai qu'on note un intérêt renouvelé pour Sciences Po. En plus, on peut enseigner en anglais en partie, donc il y a un effet pratique qui nous met en bonne position. Nous allons accueillir dans le cadre d'un programme de Visiting Professors qu'on a mis en place à l'automne dernier, deux premiers chercheurs en septembre, effectivement venant des États-Unis.
Louise Vassy, directeur de Sciences Po, est l'invité de Radio Classique ce matin. Ces dernières années, il y a eu une tendance à privilégier à l'entrée à Sciences Po l'engagement, peut-être plus que les compétences. L'anglais et la culture générale sont devenus élitistes, c'est ce qu'on pouvait entendre parfois, avoir 19 de moyenne au bac ne garantissait plus l'accès en première année. Bref, il fallait répondre à des critères qui n'avaient plus grand-chose à voir à ce qu'était l'entrée à Sciences Po autrefois, monsieur. Quelle est votre conception du mérite, Louise Vassy ? Qu'est-ce que c'est que le mérite républicain ? Et est-ce que c'est quelque chose qui a encore droit de citer à Sciences Po ?
Écoutez, le mérite, évidemment, c'est quelque chose à quoi nous sommes fondamentalement attaché. Le mérite républicain, c'est une histoire française. C'est aussi mon histoire, vous le savez peut-être. Je viens de banlieue parisienne et au fond, je dois tout à l'école républicaine.
T'as fait l'ENA ?
J'ai fait d'abord surtout le collège Irène et Frédéric Joliot-Curie de Fontenay-sous-Bois, puis Louis Legrand, puis Sciences Po et l'ENA en passant par l'ENS de Cachan.
Donc vous avez beaucoup bachoté.
J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé et c'est vrai que je n'ai rien contre les bons élèves. Je pense que pour être bon élève, il faut des qualités de détermination, de curiosité, d'engagement personnel.
C'est incroyable que le directeur de Sciences Po puisse dire « je n'ai rien contre les bons élèves ». C'est une litote, dit quelque chose des temps présents.
Je le dis comme une boutade et je voudrais dire que nos élèves sont excellents. Je voudrais quand même vous donner un chiffre qui, à mon avis, clôt le débat. 40% de nos étudiants actuels à Sciences Po ont une mention très bien avec félicitations du jury, c'est-à-dire que ça les place dans les 1,5% de meilleurs bacheliers généraux, c'est-à-dire dans les 0,7% sans doute de meilleurs élèves du pays.
Donc, on peut avoir une mention très bien et être calé à l'entrée de Sciences Po quand même.
Ah ben on peut tout à fait, puisque 15% des élèves de bac général ont une mention très bien, donc on pourrait de toute façon pas tous les accueillir. En revanche, 95% de nos étudiants ont une mention très bien. Donc vous voyez qu'on est quand même, on recrute de bons élèves. Et là où vous avez raison, c'est que les admissions, ça fascine tout le monde. Et donc, ce que nous avons fait cette année, c'est qu'on a voulu objectiver notre processus. Et donc, tout ce qui relève des lettres de motivation, notamment, a été envoyé et fusionné avec l'oral. Donc, elles existent, mais elles sont examinées pendant l'oral. En revanche, dans la phase d'admissibilité, c'est vraiment des critères de mérite académique qui sont mis en valeur.
Louise Vassy, on disait aux élèves de Sciences Po, autrefois, quand ils arrivaient, il y avait un amphi, le directeur les accueillait, il leur disait, vous êtes l'élite. Est-ce que l'ambition est devenue un gros mot ?
Non, pas du tout, ni l'ambition.
Vous avez parlé d'élite, vous aussi, vous avez école d'élite.
Oui, moi je n'ai rien, un pays, au fond la question n'est pas de savoir si des sociétés ont des élites. Je vois, à ma connaissance, je ne suis pas anthropologue, mais toutes les sociétés finissent par générer des élites. C'est est-ce qu'elles sont conçues d'une manière appropriée ? Est-ce qu'on préfère une oligarchie ou est-ce qu'on préfère du mérite républicain ? Évidemment, je préfère les élites par l'éducation. Cela étant, si on est du bon côté du mérite, ce n'est pas la fin de l'histoire. On a aussi un devoir d'exemplarité, on doit aussi se comporter d'une manière spécifique. Et c'est ça qu'on doit aussi apprendre à Sciences Po. C'est le fond, mais c'est aussi l'attitude. Et ça me renvoie au sujet du respect des opinions des autres, de la nuance, de l'ouverture au débat.
Louise Vassy, un dernier mot. Le logo de Sciences Po, c'est un lion et un renard qui se font face et qui tiennent un livre. Le lion pour la force, le renard pour la ruse. Qui voulez-vous former ? Plutôt des lions ou plutôt des renards ?
Je veux surtout former des dirigeants pour la France et dorénavant pour le monde, qui soient capables de comprendre le monde tel qu'il est, d'être d'être connectés au sujet du moment. On va ouvrir une école du climat en 2026, on va donc développer les relations internationales. Il faut évidemment qu'ils sachent beaucoup de choses et puis il faut qu'ils aient un comportement exemplaire, comme je l'ai dit.
Louise Vassy, directeur de Sciences Po, merci à vous d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. À bientôt peut-être. À suivre le rappel des titres et la revue de presse d'Hervé Gattegno, 8h28. Merci.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Monsieur Martin, vous n'avez toujours pas été réglé du solde de votre facture? Ah mais moi, Monsieur Martin, avec mes fournisseurs, j'ai une règle d'or. Une règle immuable. Je paye 30% la commande et le solde au tribunal. Si, si.
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2024, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence, et qu'elle est à partir de 170 euros par mois, et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 2500 euros pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril, c'est acceptation crédit par. Garantie à l'URCAIR, conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassé. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas. Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e, métro Notre-Dame-des-Champs.
Renault.
Tous les hybrides ne se valent pas. Choisir la motorisation Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est choisir la technologie Full Hybrid numéro 1 des ventes en France. C'est jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. C'est rouler jusqu'à 130 km/h en électrique et faire jusqu'à 40% d'économie de carburant. C'est une gamme complète de 7 modèles Renault Full Hybrid E-Tech, comme par exemple Clio, Symbiose, Austral ou Rafale.
En 2024, source 3A Data, selon version et conduite, économie versus moteur thermique, voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Chaque jour dans la matinale de Radio Classique, retrouvez comment j'ai réussi à 6h15 avec Natran. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Alors, where is Brian? Où est Brian? Brian in the USA? Brian était aux USA. Where is Jenny?
Ben oui, elle est où, Jenny?
Il va falloir réviser votre anglais. En ce moment, avec les essais 100% électriques Ford, tentez de gagner 5 voyages à la découverte de l'Ouest américain. Inscrivez-vous sur Ford.fr.
Ah bah, tous les coups, elle est aux États-Unis. Hey, Brian!
Ford. Jeu valable du 15 mars au 30 juin 2025. Règlements et conditions sur Ford.fr, gratuit sans obligation d'achat. Au quotidien, prenez les transports en commun.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Charles Bonner pour le rappel des titres à 8h30.
Ce n'est qu'une pause fragile, alerte Emmanuel Macron ce matin, référence à la pause sur les droits de douane américains qui reste tout de même à 10% pour l'Europe. Il faut mobiliser tous les leviers disponibles, selon le président français. La Commission européenne évoque une taxation des géants du numérique. Une discussion entre Américains et Iraniens, entre hauts responsables réunis à Oman demain, souhaitée et annoncée par Donald Trump sur le nucléaire iranien. À
accompagné de plusieurs menaces de bombardement en cas d'échec. Et puis après Citroën, DS et Volkswagen, autour de Toyota et Mercedes de rappeler des véhicules équipés d'airbags défectueux Takata. Il s'agit de certains modèles, les Toyota Yaris et Corolla, et des Mercedes classe A et classe C.
Merci Charles. 8h32, c'est l'heure de la revue de presse d'Hervé Gattegno. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Dans la presse d'aujourd'hui, chaque chose a son prix.
À commencer par la guerre commerciale de Donald Trump, bien sûr. Après la volte-face du président américain sur les droits de douane, les Échos titrent sur la désescalade, mais annoncent en guise de contre-attaque une déferlante chinoise sur l'Europe. L'inquiétude est forte face à un possible raz-de-marée d'offres de produits à prix cassé des géants chinois du e-commerce, Temu et Shein, écrit le quotidien économique. En un an, les Français ont dépensé 4,8 milliards d'euros sur ces deux plateformes chinoises. Le Parisien complète avec ce chiffre. 12 millions de colis par jour arrivent en Europe en provenance de Chine. Et ça va augmenter donc, puisque ces envois sont désormais surtaxés aux États-Unis. L'Europe craint un afflux de produits chinois, confirme le Figaro. La Chine vient-elle de se réveiller ? Non. Pour réduire les délais de livraison, les groupes chinois achètent déjà depuis un moment des entrepôts en Europe.
Et le quotidien L'Opinion explique que pour l'instant, la Chine modère sa contre-attaque.
Jusqu'à présent, elle s'est contentée de renforcer le contrôle des minerais de terres rares dont les États-Unis ont un besoin crucial pour leurs équipements de sécurité. Mais la Chine détient 759 milliards de dollars de dettes publiques américaines. Il lui suffirait d'en vendre une partie pour faire baisser les prix des obligations, monter le coût des emprunts aux États-Unis et déstabiliser les marchés mondiaux. Une option nucléaire, disent les experts. La Chine pourrait aussi dévaluer sa monnaie, explique l'Opinion, ce qui serait un autre moyen d'ébranler les marchés financiers. Pour l'instant, le dragon montre à peine les dents. Dans le Figaro, une grande page de pub annonce ce matin une ouverture sans précédent de la Chine aux voyageurs étrangers. On peut y lire ceci. Avec sa politique d'exemption de visa, la Chine s'ouvre comme jamais aux voyageurs étrangers. En pleine expansion, cette initiative facilite l'accès au territoire, stimule le tourisme et reflète une volonté d'ouverture et de rapprochement avec le reste du monde.
Et puis il y a une très belle photo d'une vallée fleurie.
Ça donne envie.
Dans un flou artistique digne des années 70. Un autre front de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est le canal de Panama. Les Échos Week-end y consacrent un long reportage.
Long et riche en précisions historiques et économiques, 4% du commerce mondial transite par le canal de Panama, qui rallie les océans Atlantique et Pacifique grâce à un passage long de 82 km, avec un lac artificiel et un système d'écluses. L'idée était française, mais ce sont les Américains qui l'ont menée à bien. Chantier achevé en 1916, après 10 ans de travaux. En échange, les Américains négocient à l'époque avec le Panama le contrôle du canal et d'une bande de terre de 8 km des deux côtés, où ils installent des bases militaires. Mais Jimmy Carter a cédé le canal aux Panaméens en 1979 et Donald Trump, qui n'a pas réussi à implanter sur place un de ses hôtels, veut reprendre l'avantage. Le rapport de force n'étant pas en sa faveur, le gouvernement panaméen multiplie les concessions, dont l'une consiste à réduire la présence des entreprises chinoises et à retirer aux Chinois l'exploitation des ports. À lire donc dans le magazine des Échos ce week-end sous le titre « Le canal de la colère ».
Kylian Mbappé est aussi en colère. Le footballeur est en guerre contre son ancien club, le Paris Saint-Germain, pour des histoires de gros sous, très gros les sous.
Oui, les détails sont à lire dans l'équipe, mais aussi, mais aussi dans le Parisien et dans Ouest-France, car cette bataille déborde le cadre du terrain de foot. Les avocats de Mbappé, qui a rejoint l'an dernier le Real Madrid, ont tenu hier une conférence de presse pour annoncer une offensive tous azimuts. La veille, ils avaient obtenu au nom du joueur une saisie conservatoire de 55 millions d'euros sur les comptes bancaires du PSG. Selon le Parisien, le montant correspond au troisième tiers de la prime de signature que Mbappé réclame toujours à son ancien club, plus les salaires non versés d'avril, mai et juin 2023. Le PSG a été condamné à payer par les instances du football français, mais le club joue les prolongations et a saisi la justice. Comme Kylian Mbappé joue au poste d'attaquant, il est donc passé à l'attaque, c'était normal, avec des plaintes au pénal, y compris pour harcèlement moral, figurez-vous, et des recours auprès des instances du football européen. Une de ses avocats dit dans le Parisien vouloir faire respecter le droit pour que tout se termine merveilleusement bien. Ce n'est pas gagné.
On termine avec une vente aux enchères hors normes racontée par le magazine Gala, des trésors du cinéma hollywoodien aux enchères.
C'était à Los Angeles le 26 mars, 1300 objets issus de grands films américains, costumes et accessoires cultes étaient mis à prix. L'envoyé spécial de Gala décrit son émerveillement au vu de la robe Vichy rose d'Olivia Newton-John dans Grease, qui voisine avec le blouson noir de John Travolta dans le même film, blouson qui sera cédé pour 117 000 euros. Un autre blouson avec col de fourrure est monté très haut, c'était normal, c'est celui de Tom Cruise dans Top Gun, adjugé 82 500 euros. Chaque objet est assorti de son certificat, de son historique et d'une photo de plateau. C'est une Madeleine de Proust à chaque vitrine, confie émue une visiteuse qui a flashé sur des lunettes de soleil de De Niro dans Casino. Elles monteront vite à 7500 euros et elle n'aura plus que les yeux pour pleurer. Un canot de sauvetage de Titanic n'a pas trouvé preneur, ce qui est un petit naufrage, alors que les bottines de Charlie Chaplin dans Le Dictateur ont trouvé chaussure à leurs pieds, 188 500 euros quand même. Déformés, tachés, mais c'est toute l'âme de Charlot qui les habite, dit une amatrice. L'objet le plus cher était une affiche de Star Wars, peinte à la main, exemplaire unique, 710 000 euros. Le moins cher de la vente, une lance tirée du film Ben-Hur, qui est partie pour 1030 euros, c'est beaucoup moins cher. Quant à la veste de Dustin Hoffman dans Le Lauréat, qui vous est cher, cher David, elle a été adjugée à 10 000 euros.
J'aurais acheté.
À Hollywood, on vend du rêve et on paye comptant.
La veste de Dustin Hoffman, ouais, j'aurais acheté, j'aurais fait encadrer.
Elle vous irait bien pourtant.
Si j'avais eu les sous. Je vous souhaite de bonnes vacances, Hervé.
Merci,
vous reviendrez
David,
la semaine prochaine. Merci infiniment. Nos esprits libres sont là. Il est 8h39. Vous écoutez Radio Classique et c'est bien.
Cyrus Erez, gestion de fortune, orchestre votre patrimoine en toute harmonie. Grâce à notre approche en architecture ouverte, votre patrimoine devient une œuvre qui allie sérénité, performance et héritage familial. Ensemble, composons une symphonie patrimoniale qui résonnera aujourd'hui et demain. Cyrus Erez, la gestion de fortune depuis 1989.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Du lundi au vendredi, dans la matinale de Radio Classique, Natran vous présente le journal de l'écho à 6h47. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Waouh ! Pour la troisième fois consécutive, vous avez choisi Action comme enseigne préférée des Français. Merci pour votre confiance et à bientôt dans nos magasins. Action, petit prix, grand sourire.
Vous trouvez que le temps passe vite ? Nous aussi. Alors chez Mazda, nous vous offrons jusqu'à 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance sur nos berlines SUV compact 9 Mazda 3 et CX-30. Et pour toujours plus de sérénité, nous garantissons tous nos modèles 6 ans. Prenez juste le temps de découvrir notre gamme chez votre concessionnaire Mazda le plus proche. Le moment est venu de rouler l'esprit tranquille. Garantie 6 ans limitée à 150 000 km. Offre valable en location longue durée à particulier jusqu'au 30 juin. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Le plus grand événement des solutions pour la planète arrive à Paris. Change Now transforme le Grand Palais en exposition universelle des solutions durables. 3 jours de conférences, de rencontres inspirantes et 1000 innovations à découvrir. Le samedi, Job Fair, atelier famille, fresques et art pour tous. Entrez dans un monde durable à Change Now du 24 au 26 avril. Informations et réservations sur changenow.world.
Devenez les convives privilégiés de soirées uniques en assistant à la Traviata ou Rigoletto de Verdi dans les salons du musée Jacques Marandré en petit comité. Vivez l'opéra de l'intérieur au plus près d'artistes qui chantent sur de grandes scènes en les suivant d'un salon à l'autre tout en admirant les chefs-d'œuvre du musée. Opéra a Palazzo, c'est la découverte d'émotions jamais ressenties. C'est l'opéra intime, autrement, au musée Jacques Marandré à Paris. Informations sur opéra-palazzo.com.
Madame Figaro, spécial déco est en kiosque. On s'évade et on prend la direction de Minorque ou encore du Brésil pour des escapades dans des maisons de rêve. Partez à la rencontre des jeunes designers français qui comptent et toujours toutes les nouveautés et les tendances du moment. Madame Figaro, spécial déco, en vente actuellement.
Bonjour, c'est Ève Ruggieri. C'est un bonheur de vous retrouver pour partir ensemble vers le soleil de la Sicile. Palerme et ses palais privés, la somnambule de Bellini au Teatro Massimo et le privilège d'un dîner-concert d'exception au Palazzo Francavilla. Autant de superbes moments de musique et d'émotions partagées avec vous.
Palerme lyrique avec Ève Ruggieri, du 20 au 25 octobre. Un voyage événement avec Radio Classique et Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Le Parisien, aujourd'hui en France, vous invite à découvrir les plus belles randonnées de France dans son nouvel hors-série. Sentiers côtiers, chemins forestiers, itinéraires au cœur des vignes ou des montagnes, 15 parcours d'exception de 1 à 6 jours avec notre guide pratique. Les 15 plus belles randonnées de France, un hors-série Le Parisien aujourd'hui en France, chez votre marchand de journaux.
Carrefour. Avec votre club Carrefour, cagnottez 34% d'économies sur tout la Berry. Oui, 34% d'économies sur les saumons fumés, le confit de canard, les jambons ibériques. Et c'est jusqu'au 20 avril, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, et sur votre appli Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Selon disponibilité en magasin, limité à 6 produits par foyer, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Renault.
Tous les hybrides ne se valent pas. Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est la technologie Full Hybrid numéro 1 en France. Avec jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. Comme par exemple Renault Symbiose Full Hybrid, des 320€ par mois. 2 mois de loyer offert.
En 2024, source 3A Data, selon version et conduite. Symbiose Evolution Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 000€. Troisième et quatrième loyer offert si accordiaque. Offre à particulier jusqu'au 30 avril, voire Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et surtout avec Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point, et Jean-Marie Colombani, fondateur de Slate, et que vous retrouverez demain dans Commentaires, l'émission de Radio Classique dès 8h avec Jean-Claude Casanova. Bonjour mes amis.
Bonjour David.
Merci d'être là. On ne va pas revenir ce matin sur la politique en zigzag de M. Trump. En revanche, voici ce qu'on peut lire dans les Échos. C'est un scénario digne d'un thriller financier. Un tweet énigmatique dans lequel Donald Trump annonce que c'est le moment d'acheter, sans en dire plus. Un revirement surprise sur les droits de douane, une envolée boursière historique et des accusations de manipulation de marché visant le président américain. Les démocrates et certains observateurs des marchés financiers sont très suspicieux. Est-ce que cet épisode raconte ce que sera la présidence de Trump ou pas ?
Ça raconte Trump lui-même. Comme on dit au tribunal de Paris, un faisceau d'indices vaut preuve. Et là, il y a manifestement un faisceau d'indices sur la manipulation en question. Et ça renvoie au fait que Donald Trump est à la tête quand même d'un projet de prédation. Lui et c'est les milliardaires qui l'entourent. Et donc, il a toujours été obsédé par l'argent. Et donc, ça n'est absolument pas sûr. Ce qui est problématique, c'est que normalement, ce genre de mécanisme, qui est quand même fréquent dans les milieux financiers, est très lourdement sanctionné par les organismes de contrôle et par la justice. Là, on pense qu'il n'y aura pas de sanctions parce que Trump intimide tellement les juges et poursuit tellement les juges qui avaient osé le mettre en cause dans une période précédente, tellement animé par ce ressort-là, qu'on voit mal qu'il puisse être à son tour, cette fois, pourchassé. Donc, c'est peut-être le début d'un scandale, mais qui risque d'être bloqué très vite par le rapport des forces aujourd'hui aux États-Unis.
Et il y a une tradition de mélange des genres aux États-Unis dans ce domaine. C'est le père de John Kennedy, qui avait des responsabilités de régulateur en son temps, je crois que c'est à la fin des années 30, et qui avait usé du délit d'initié sans scrupule. Disons. Géraldine Vosner, vous vouliez tempérer ce que disait Jean-Marie Colombani.
Oui, non, mais
Jean-Marie,
parce que Colombani. Jean-Marie, vous avez déjà, vous savez tout, et puis vous avez...
Attendez,
il est déjà coupable, et puis d'ailleurs, ce ne sera pas jugé, donc
laissez
on est quand même dans un degré de complotisme assez élevé.
Non.
Moi, j'ai regardé un peu la presse américaine. La presse américaine, elle est très partagée. C'est intéressant parce que vous avez des titres comme The Independent qui penchent pour un scandale potentiel, assurément. Le New York Times est très prudent. Il souligne le manque de preuves tangibles. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un soupçon. Ce soupçon, il est énorme. Et les sénateurs démocrates et autres, d'ailleurs, type Elizabeth Warren ou Adam Schiff, exigent une enquête. Ils ont raison de le faire. Tout simplement parce que les oscillations politiques vont offrir, qu'il y ait intention ou non, des opportunités dangereuses pour ce délit d'initié. Maintenant, je reviens même sur le délit lui-même. Trump, il publie son message. publiquement sur le réseau Truth Social, qui est accessible à tous. Ça contredit quand même la définition juridique, en tout cas de délit d'initié, qui est un usage secret d'informations non publiques. Donc, des poursuites vont être compliquées.
Là, maintenant, il fait des millions d'initiés. Quoi.
Mais naturellement,
il démocratise le délit d'initié.
Mais la question centrale, c'est est-ce qu'il y a une intention
de
se remplir les poches, c'est-à-dire qu'on ourdit complètement toute cette histoire de tarifs dans cet unique but. Excusez-moi, mais il va falloir quelques preuves. Évidemment, la SEC, à mon avis, va ouvrir une enquête parce que il n'y a pas eu que ça. Il y a eu déjà un enrichissement d'Elon Musk avec Tesla sur des fluctuations similaires il y a quelques mois, quelques semaines. Elle garde son indépendance à la SEC. Elle a effectivement des membres qui ont été nommés par Donald Trump. Il faut qu'elle asseye aussi son indépendance. Donc, il devrait, en tout cas à mon sens, y avoir une enquête pour au moins vérifier que des proches de Donald Trump n'aient pas joué effectivement avec cette opportunité, ce qui est pas improbable du tout. Hein. Vous savez, on a une espèce d'uburoi qui est entouré de gens sans foi ni loi, qui ne sont pas animés forcément par un intérêt général très marqué. Et oui, il est essentiel que cette enquête.
Disons que ces affaires-là, vues de France, sont extrêmement, je ne vais pas dire choquante, mais l'enrichissement vu de France est quasiment un péché dès le départ.
Oui, mais là, ça n'a rien à voir, c'est de l'enrichissement frauduleux.
On n'en sait rien, parce que
c'est le moment d'acheter. Moi, je l'ai dit la veille à des amis, hein, c'était pas non plus.
La SEC va vous poursuivre.
Vous étiez dans le coup.
La SEC va vous poursuivre. Mais pour revenir sur le soi-disant complotisme vis-à-vis de Trump, je rappelle à Géraldine qu'à chaque fois qu'on a pu nuancer, essayer de trouver des excuses, etc., dans le process du Trumpisme qui est en marche, à chaque fois, la réalité va bien au-delà du pire que l'on pouvait imaginer. Bien au-delà, il suffit de regarder la scène internationale, la scène économique, etc. Et je vous rappelle qu'une des sociétés principalement bénéficiaires de cette manœuvre, le principal actionnaire, c'est Donald Trump lui-même. Donc, il est pas nécessaire d'attendre d'autres preuves pour se fixer sur l'idée que l'on se fait de Donald Trump.
Bon, allez, on va se rapprocher de l'Europe directement. D'ailleurs, au cœur de l'Europe, les Allemands ont enfin une plateforme de gouvernement après d'âpres négociations, mais qui sont la condition pour devenir le chancelier allemand. Friedrich Merz devrait donc entrer en fonction en mai. Le Monde écrivait hier soir, savante composition mêlant les priorités et les revendications de chacun, le texte de cette plateforme, de cet accord de gouvernement, long de 146 pages, a été négocié à huis clos pendant un mois par un total de 192 émissaires sous la pression combinée des militants des formations politiques et des droits de douane annoncés en cascade par la Maison-Blanche. Il fallait rapidement parvenir à des résultats, a résumé le probable futur chancelier conservateur Friedrich Merz, mercredi reprenant sa phrase favorite, l'Allemagne est de retour. La France aurait pu s'en inspirer quand même, une plateforme de gouvernement, un accord de gouvernement de 146 pages. On devine la méthodologie allemande, Géraldine Vossner.
Oui, je suis pas certaine parce que il y a 146 pages avec beaucoup de choses très creuses et beaucoup d'inconnus. Moi, ça m'a plus
Il y a beaucoup d'antagonisme.
Ouais, il y a beaucoup d'antagonisme. Donc à court terme, effectivement, ça va tenir. On va voir une Allemagne qui va projeter son image de force face à Trump, qui va marcher d'un seul homme. Et c'est bien pour répondre à cette menace de droits de douane. Sur le plan intérieur, on va voir quelques mesures visibles pour calmer notamment l'électorat de l'AFB. Je pense sur des contrôles migratoires renforcés. On aura quelques allègements fiscaux très modestes, mais après, à moyen terme, on va voir si Merz et le SPD peuvent surmonter leurs différences. Et il y a quand même des différences très profondes, hein, notamment sur cette mesure, sur le frein à l'endettement. Je rappelle que c'est ce qui, dans la Constitution, limite les déficits publics à 0,35% du PIB. Merz dit il faut absolument le préserver. Le SPD dit non, absolument pas, il faut justement qu'on puisse s'en libérer. Ça va être central. La question des retraites, quand même, Merz reste attaché à la prolongation jusqu'à 68 ans, évidemment pas le SPD. Et puis, la question de l'énergie. Et là, il y a le potentiel de beaucoup de problèmes. Ils promettent de baisser les prix de l'énergie, personne ne sait comment, étant donné qu'ils ont renoncé au nucléaire. Leur plateforme gouvernementale, elle prévoit la construction de plus de 20 centrales à gaz nouvelles. Donc, on en voit complètement valdinguer les objectifs climatiques. Ça, à long terme, c'est explosif.
Jean-Marie Colombani, c'est quand même bien que l'Allemagne ait une plateforme de gouvernement, même si l'accord est truffé de contradictions, si j'ai bien compris Géraldine Vossner. C'est bien pour le fonctionnement de l'Europe. l'Europe.
En tout cas, c'est la façon allemande d'avancer.
Oui.
Les grandes coalitions, ils en ont l'habitude, ils les fabriquent de cette façon, c'est-à-dire par des mois et des mois de négociations. Puis ensuite, il y a une sorte de feuille de route qui est souvent respectée à la lettre, ce qui n'empêche pas les crises ici et là. Mais bon, là, ce qu'il faut retenir de ce qui est en route, c'est d'une part une réaffirmation très forte, sans ambiguïté, de l'ancrage européen de l'Allemagne. Et donc, c'est sur le thème, quand il dit l'Allemagne est de retour en Europe, avec une trilogie, ils veulent un petit peut élargir le front franco-allemand à la Pologne, vis-à-vis notamment, pour être encore plus clair qu'il est possible, vis-à-vis de la Russie sur l'affaire ukrainienne et vis-à-vis évidemment des négociations avec les États-Unis. Il y a le retour de la bonne vieille politique de l'offre, c'est la baisse de l'impôt notamment sur les sociétés. Il y a toute une série de dispositions qui tentent à mettre fin à ce que l'on appelle le frein à l'endettement. Le frein à l'endettement, c'est le totem des conservateurs.
C'est le surmoi des Allemands.
Et là, il est abandonné pratiquement parce que il prévoit un plan d'infrastructure de 500 milliards d'euros quand même. Donc, mais ça leur coûte déjà politiquement, parce que c'est quelque chose qui a remobilisé l'électorat de la droite vers l'extrême droite. Et donc les sondages montrent que l'extrême droite a déjà rattrapé la droite classique. Donc c'est une situation politique difficile, mais globalement c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que l'Allemagne remonte sur son cheval, si j'ose dire, dans un ancrage européen beaucoup plus clair qu'il n'a jamais été.
J'aimerais qu'on en vienne à l'affaire Betarame, mais plus largement, elle fait des petits, si j'ose dire, avec des institutions catholiques dont il ressort qu'il y a eu des comportements, des agressions, des violences, parfois des agressions sexuelles. Est-ce qu'on va vers un MeToo éducation privée ? Alors évidemment, tous ces mots sont un peu réducteurs, mais est-ce que tout cela ne dit pas un fait de société sur la façon dans notre pays, pendant des années, on a éduqué les enfants, on les prenant pour des choses.
Évidemment, évidemment, on voit qu'une dizaine d'établissements privés depuis février sont cités dans des témoignages similaires. Alors, c'est vrai que le problème se limite pas au privé, hein. Il y a eu des signalements d'abus dans des internats publics, dans des collèges publics, devant la commission d'enquête parlementaire.
Rectifie. Il y a eu le public et le privé.
On
très
voit
important.
Clairement une sorte de ça rappelle la vague de dénonciations post-affaire Weinstein. Et c'est normal. On voit des gens qui appartenaient à cette génération dans laquelle la fessée, c'était quelque chose de parfaitement normal. D'ailleurs, on avait des débats publics pour expliquer que c'était complètement ridicule d'essayer de s'en passer. Là, vous avez des gens qui prennent conscience que ce qu'ils ont vécu ou les méthodes d'éducation qu'ils ont vécu n'étaient pas normales. Et cette prise de conscience, elle a besoin de s'exprimer. C'est très intéressant aussi parce que la commission d'enquête est quand même en train de révéler des défauts de contrôle proprement sidérants. Hein. C'est vrai que le cas Betarame avec François Bayrou est emblématique, complètement emblématique.
Jean-Marie Colombani, on termine et vous allez conclure cette séquence qui, de toute façon, va se poursuivre. Je pense qu'on en reparlera, mais j'ai vécu, moi, dans les années 70, l'école publique, où la taloche partait facilement, oui. Où un prof, je m'en souviens, en CE1, plottait ostensiblement une gamine devant nous. Quand on n'était pas sage, il nous arrachait les cheveux des tempes. J'en dirai pas plus. Ça nous a pas empêché de grandir, mais c'est quand même, ça questionne la façon dont on traite les enfants. Si les enfants faisaient 1m90, c'est-à-dire la même taille que les adultes, ça n'arriverait pas.
Oui, bien sûr, c'est à la fois une marque de l'époque, c'est le contexte, comme on dit aujourd'hui. Mais ça renvoie quand même à une réalité qui devrait interpeller aussi l'ensemble de l'Église catholique, parce que venant après la commission Sauvé, qui a révélé toutes les affaires de pédophilie dans l'Église et dans les établissements religieux, venant après tout ce qui est révélé aujourd'hui, ça interpelle quand même beaucoup plus fortement que ne semblent le penser les évêques de France. Et en même temps, ça révèle aussi une absence de contrôle très, très dommageable et très fautive. Mais voilà, c'est ainsi qu'avancent les sociétés, hein, d'une certaine façon. Mais il faut aussi en renvoyer à ce qui s'est passé, là, le rapport de la commission d'enquête sur les milieux culturels, les milieux du cinéma, etc., où on découvre aussi des pans entiers d'une réalité qui est au-delà du choquant, et simplement, ce sont des choses qui étaient jusqu'à présent cachées aux dépens, notamment des enfants, aux dépens des adolescents et des adolescentes, et qui, heureusement, aujourd'hui, refont surface.
On aura l'occasion d'en reparler, on va se quitter. Tout à l'heure, Hervé Gattegno passait Mrs. Robinson. Moi, j'avais envie de réécouter Sound of Silence de Simon and Garfunkel. C'est toujours la musique du lauréat.
Hello. darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains.
Radio Classique, la radio musicale la plus podcastée de France.
Franck Ferrand raconte.
À l'époque où surgit sur la scène de l'histoire ce personnage de Jeanne, pucelle d'Orléans, on est vraiment au fond du gouffre en France.
Les histoires en musique d'Élodie Fondacci.
Encore une histoire.
Il y a très longtemps, vivaient au Vietnam un roi et une reine qui avaient une fille d'une extraordinaire beauté. Vous trouvez ça classique ? Avec l'orchestre Appassionato.
Et ces accords semblent nous emmener loin, très loin.
Et toujours la même chose, cher Mathieu. Je crée de l'émotion, donc je me préoccupe de ce que vous ressentez.
Des livres et des notes avec Fabrice Lucchini.
Beethoven est une magnifique preuve de l'âme. Si jamais l'inadhérence de l'âme et du corps a éclaté, c'est dans Beethoven.
Tous nos podcasts sont à retrouver sur radioclassique.fr
et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Alors, where is Brian? Où est Brian? Brian in the USA. Brian était aux USA. Where is Jenny?
Ben oui, elle est où, Jenny?
Il va falloir réviser votre anglais. En ce moment, avec les essais 100% électriques Ford, tentez de gagner 5 voyages à la découverte de l'Ouest américain. Inscrivez-vous sur Ford.fr.
Ah ben, tous les coups, elle est aux États-Unis. Hey Brian.
Ford. Jeu valable du 15 mars au 30 juin 2025. Règlements et conditions sur Ford.fr. Gratuit sans obligation d'achat. Pensez à covoiturer.
La saison 2025-2026 de la scène musicale vous attend. Concerts, ballets, musique de film, spectacles en famille, grands orchestres, laissez-vous envoûter par une programmation d'exception. Et vivez toutes les couleurs de la musique, du grand répertoire à la création, sur la grande scène et à l'auditorium. Réservez cette saison inoubliable sur lascenemusicale.com.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassé. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas. Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e, métro Notre-Dame-des-Champs.
Dans un instant, la météo, les infos et Franck Ferrand.
Votre nouveau poltron sofa est plus proche que vous ne le pensez.
Bien sûr, Bruno, c'est la collection Je Mérite. Tant de canapés à 799 € seulement.
Mais ça se termine demain.
Vous avez plus de 300 magasins pour l'essayer. Avec en plus 30% sur les modèles de la collection, comme en exposition.
Poltron sofa, 30 ans de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Pierre Pilet, bonjour.
Bonjour.
Il fait beau, Pierre Pilet.
Effectivement, du soleil, David Abicaire, dans les trois quarts du pays. Le ciel est un peu voilé dans le sud-ouest ce matin. Quelques nuages qui vont remonter le long de la façade atlantique cet après-midi. Les températures maximales, 17 degrés à Marseille, 20 à Strasbourg et Lille, 21 à Alençon, 22 à Paris, 27 à Bordeaux.
Dans un instant, vous allez retrouver Franck Ferrand pour Franck Ferrand raconte. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Je pars 8 jours et je vous reviens, j'espère, frais et dispo. Profitez bien du week-end.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
Il est exactement 9h, passé de 1 minute. Les informations, Pierre Pilet.
Emmanuel Macron prévient que l'abaissement temporaire des droits de douane américains à 10% représente une pause fragile. Il estime que l'Europe doit mobiliser tous les leviers disponibles pour se protéger. Message posté par le président de la République sur le réseau social X. La Commission européenne, elle, menace de taxer les géants américains de la tech si les négociations avec les États-Unis échouent. On pourrait imposer une taxe sur les revenus publicitaires des services numériques. Cela fait partie d'un large éventail de contre-mesures. Déclaration d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Déclaration dans le Financial Times. L'Iran estime donner une véritable chance à la diplomatie. Des pourparlers sont prévus avec les États-Unis ce week-end dans le Sultanat d'Oman sur le programme nucléaire de Téhéran. L'Amérique devrait apprécier cette décision qui a été prise en dépit de sa rhétorique hostile, déclare le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Cette rencontre se fait à la demande de Donald Trump qui veut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. 10 morts dans une frappe israélienne cette nuit à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, c'est ce qu'affirme la défense civile palestinienne. Il s'appelle Dan Kane, c'est le nouveau chef d'état-major des armées aux États-Unis. Sa nomination a été confirmée par le Sénat ce matin. Son prédécesseur a été limogé sans explication par Donald Trump. Après Citroën et Volkswagen, Toyota et Mercedes vont immobiliser des centaines de milliers de véhicules en France pour changer les airbags défectueux de la marque Takata. Plus de 210 000 Mercedes classe A et classe C produites entre 2004 et 2016. Plus de 150 000 véhicules Toyota modèles Yaris et Corolla.
Suivez le Point Bourse avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos placements. Bourse, assurance vie, épargne.
À 9h03 sur Radio Classique, l'ouverture de la bourse avec vous, Sylvie Aubert. Quelle est la tendance ?
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Eh bien, le CAC 40 ouvre en hausse, plus 1%, 7197 points, malgré la rechute de Wall Street hier. Mais ce rebond risque quand même d'être de courte durée. Même avec 90 jours de sursis, la guerre commerciale aura bien lieu. C'est une nouvelle donne dont on a encore du mal à évaluer tous les effets, notamment sur les futurs bénéfices des entreprises. De plus, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis s'intensifient avec une surtaxe monumentale de 145%. Ce qui risque de faire déferler les produits chinois sur l'Europe. Il faudra surveiller le marché obligataire américain. La hausse des rendements longs est tout à fait inhabituelle. En pleine période de tempête